Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi-mensuel de la cellule dédié au suspense avec la convention Eclipse qui a organisé cette table ronde. Netza, ça va? T'es avec nous?
Bah, ça va bien, ouais.
Attention à ton micro pour nos auditeurs. Voilà, là, tu es au bout de la pièce. Voilà, tu t'es rapproché d'eux. Merci. Pika Toulou est avec nous également, comme l'année dernière. Cette même table ronde.
Ouais, salut tout le monde.
Prêt à parler du suspense?
Ouais, super motivé.
Tu te présentes, Rapidos? Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore.
Ok, donc moi c'est Thomas Munier, alias Pika Toulou, sur les divers forums que je fréquente, tels Terres étranges et Antonio Bay. Donc je suis l'auteur du jeu de rôle amateur Millevaux, qui est un jeu de rôle post-apocalyptique, forestier et sludgecore, qui se joue avec le système de sombre, la peur comme au cinéma, dont Johan à mes côtés pourra vous parler plus en détail. Je suis aussi, mais c'est plus anecdotique, je suis aussi auteur de quelques soirées enquêtes, donc c'est aussi pour ça que le sujet m'intéresse. Voilà, je passe la main à Johan.
Je suis au CNRS. Johan, à toi, la main.
Bonjour, donc moi je suis Johan Sipion. Et comme je suis équipé, je viens avec ma groupie.
Podcast enregistré en public, vous l'aurez compris.
Donc je suis l'auteur de Sombre,
ouais.
Un jeu de rôle pour se faire peur comme au cinéma.
Ça a l'air de plaire aux femmes aussi. Hein.
À fond. Et je suis président de Terres étranges, une association 1901 qui en fait fédère différentes personnes, dont Pika.
D'accord.
Et voilà, j'aime les jeux d'horreur, j'aime les jeux qui font peur.
Et donc le suspense, c'est un thème... absolument merveilleux pour toi.
Oh, bah c'est super.
Tu penses que tu vas pouvoir.
Je suis follement emballé.
Nous sommes également avec Bartab. Bartab, ça va?
Bonsoir, bonsoir.
Alors, quel est ton cheval de bataille à toi? Pourquoi participer sur le suspense?
Très honnêtement?
Ouais.
Parce qu'on m'a mis un flingue sur la tête et on m'a dit viens donc participer à ce podcast.
Ça, c'est du suspense.
Ça, c'est du suspense.
Ça, c'est du suspense.
Non, non. Bah, pourquoi pas, après tout. Je me suis dit que tant qu'à faire du suspense, autant rajouter un élément comique. Et puis, donc me voilà. Quoi.
Non. En tout cas, je te vois souvent discuter sur Casus Belli, un forum que tu fréquentes pas mal. Casus No, on va dire.
Initialement, je suis du panda. Ouais. Quand le panda a décidé d'héberger Casus No, parce D'accord. qu'il s'est retrouvé un petit peu à la porte de l'hébergeur, c'est vrai qu'effectivement, les pandas ont un petit peu émigré sur Casus No, alors que c'est pas du tout le cas à l'inverse.
Ouais.
On peut considérer que...
C'est quand même un forum de réflexion sur des thématiques comme par exemple le suspense, ça ne choque
c'est,
pas.
Donc. Voilà, c'est, ça fait partie des forums, enfin en tout cas un des forums que j'aime bien lire plutôt qu'écrire en fait. J'ai plutôt une masse silencieuse sur ce type de forum. Mmh. Ce qui n'est pas le cas sur d'autres sujets qui ont de près ou de loin un trait au jeu de rôle. Mais c'est vrai que sur Casus No, sur d'autres forums, je préfère rester à masse silencieuse, lire, me faire mon idée. Exactement comme pour les podcasts de la cellule que j'écoute le plus régulièrement possible. À me faire des idées sans jamais avoir joué à Sens.
Ah oui, t'écoutes les podcasts sur Sens aussi.
Ben oui, mais c'est pas faute d'avoir ces dernières années couru les conventions, mais je n'ai jamais pris le temps de jouer à Sens. Voilà, en fait.
Ça va, on réparera cette erreur-là.
Voilà. J'ai le droit d'être flagellé à coups de figue molle. Ça marche. Je suis d'accord.
Et puis nous sommes aussi avec Valentin. Valentin. Alors, les ombres d'Estérène,
salut
carrément.
Salut à tous, voilà, donc moi je suis Valentin, je dirige la société Agathe RPG.
D'accord.
Et donc je suis l'éditeur des ombres d'Estérène, un jeu de rôle médiéval horrifique et gothique. Donc le suspense, si moi je ne le fabrique pas, je ne le crée pas, je ne l'écris pas, je participe à le faire jouer par l'intermédiaire des livres qui sont édités.
D'accord, ok. Alors on revient vers toi un petit peu, Netza, parce que toi t'as quand même, t'es organisateur de cette convention Eclipse, ça s'est bien passé, c'était cool?
Ça s'est très bien passé, je crois que tout le monde est content de...
T'es au taquet, t'as les yeux explosés, t'as dormi, allez, 3 heures.
J'ai dormi, ouais, 3-4 heures sur 3 jours. Mais non, je suis vraiment content, et puis je crois que je suis pas le seul, donc ça me fait vraiment plaisir.
Alors qu'est-ce qui t'attire dans cette table ronde sur le suspense?
Déjà les gens qui sont autour. Ça, c'est, ça,
en fait,
c'est
t'es
sûr.
Notre premier auditeur avec un... Et puis t'as l'avantage d'avoir un micro, en fait. C'est ça
ouais, j'ai mon propre micro, là, c'est... Je suis content. Non, bah, ce qui m'intéresse dans la table ronde, bah, c'est que bah, déjà, je mène pas mal à des jeux d'ambiance.
D'accord, ouais.
Donc, je fais pas mal de cult, de non-army, ce genre de trucs. Donc, je sais que je partage ce genre de goût avec Johan.
D'accord, ouais.
Carrément.
Et puis, j'écris un petit peu aussi. Et donc je me pose quand même parfois la question de comment je vais pouvoir
favoriser le suspense au cours de tes parties.
Favoriser le suspense dans une partie. Ouais.
Et bien justement, ça va faire partie des thèmes qu'on va aborder. Mais d'abord, un petit point rapide pour nos auditeurs. Quels sont les jeux qui, selon vous, on va faire un petit tour de table, encouragent, sont des grands jeux propices, au moins au niveau des univers, propices au suspense. Johan, est-ce que tu veux intervenir ? Ton jeu.
C'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée, monsieur Romaric. En fait, je vais avoir du mal à y répondre pour la bonne et simple raison que les jeux que je connais, c'est ceux que j'écris. En fait.
D'accord.
Vraiment. Mais... Et du coup.
Tu fus joueur autrefois. Quand
je,
même,
je fus ce joueur. Ouais, je fus ce meneur à d'autres jeux aussi. Mais en fait, c'est j'ai un comme ça fait un peu longtemps. Que je le fusse, que depuis j'ai beaucoup évolué en travaillant sur Sombre, j'ai un petit peu du mal à parler des jeux des autres.
D'accord,
actuellement.
Okay.
Donc, parce que tout simplement je suis à 250 000% dans mon jeu, à la fois au niveau écriture et puis au niveau masterisation.
D'accord.
Et
on viendra vers toi quand il s'agira de nous expliquer un petit peu les techniques pour mettre en place le suspense, parce que là c'est vraiment ton dada.
Si tu veux qu'on parle de Sombre, je suis ton homme. Si tu veux qu'on parte d'autres jeux, en fait, je me sens moins pertinent.
D'accord, ça roule. Pika, toi je sais que par contre tu participes encore à pas mal de jeux. Quels sont les univers qui selon toi sont propices au suspense ?
Alors, en fait, moi, je pense, déjà pour te prévenir, histoire que tu seras bien assis.
Tout le monde
essaie
de prévenir.
Pour vous prévenir tous, moi, je pense que je vais poser la même question pendant tout le podcast, c'est quoi le suspense, quoi ? Qu'est-ce que c'est ?
Ouais.
Surtout en jeu de rôle, est-ce que ça existe seulement ? Et du coup, moi, quand on me dit suspense, tu vois, en fait, je pense pas horreur. Je demande même si on n'est pas nous invités, Johan et moi, est-ce qu'on serait même pas un peu hors sujet ? Pour moi, je pense à Hitchcock, en fait. Le suspense, pour moi, c'est ça, quoi.
Ouais.
Et du coup, est-ce qu'il y a des jeux Hitchcockiens, des jeux de rôle Hitchcockiens ?
Alors, est-ce que tu peux justement rappeler la définition qu'un Hitchcock donnerait du suspense ? Qui est en fait cette histoire de bombe sous la table dont on parlait en préparation du podcast.
Alors si tu me permets, je vais en fait je vais te paraphraser parce que c'est toi qui l'a dit la bombe sous la table. C'est donc on est réunis autour d'une table et on est des acteurs dans un film de Hitchcock en train d'enregistrer un podcast sans se douter de ce qui se trame. Parce qu'en fait sous la table quelqu'un a placé une bombe, avec un minuteur et tout qui fait tic tac, mais comme on est trop absorbé dans nos proses à lécher la mousse des micros et tout, on n'entend rien. Et sauf qu'il y a le public là qui est dans le fond, vous savez, ceux qui crient très fort là pour se faire entendre. Et ben voilà. En fait le public, lui, il a vu la bombe et tout, et donc il anticipe, il commence à flipper pour nous, que nous on se rend compte de rien comme des grosses brêles.
Exactement.
Voilà.
C'est une action en fait qui est en suspens véritablement. Le public voit qu'elle va avoir lieu, mais les personnages, eux, n'en savent rien.
Exactement.
Et le problème, c'est est-ce que oui ou non c'est possible en jeu de rôle, sachant que les personnages et les spectateurs qui sont les joueurs sont une seule et même personne.
Pour moi, c'est possible si tu fais intervenir le méta-jeu.
En fait,
je prends un exemple. Alors, le jeu de rôle n'existe pas, ce qui est quand même étrange. Enfin, état
le jeu de rôle n'existe pas.
Romaric, voyons. Laisse-moi finir.
La thèse est osée.
T'as des versions amateurs qui circulent, mais je crois qu'il n'y a pas de version éditée. Tu penses à Harry Potter. Bon, évidemment, tout le monde sourit autour de moi, je pense.
Non, mais
ce qui est marrant dans Harry Potter, en fait, c'est que quand tu vois les films, parce que moi, j'ai pas lu du bouquin, en fait, je sais pas lire. Quand tu vois les films, clairement, on voit trop que le mal, il est insinué partout. Enfin, grosso modo, Voldemort, il a infiltré ses pions partout. Et t'as l'impression que les protagonistes principaux, ils se doutent de rien, quoi. Ils voient rien venir, ou très peu, quoi. Éventuellement, t'as le personnage principal, Harry Potter, qui voit un petit peu quelque chose, mais il fait figure de Cassandre.
Ça, pour toi, c'est du suspense.
C'est du suspense, parce que tu dis, quand est-ce qu'ils vont se rendre compte ? Est-ce qu'ils vont réagir ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Donc, en ce sens-là,
et ça, tu peux le faire en jeu de rôle. Parce que du coup, t'es fait intervenir le méta-jeu. Si tu joues à Harry Potter, les joueurs, ils savent. Voilà.
Bartam, tu voulais intervenir.
Oui, à ce niveau-là, lorsqu'on cherche à savoir s'il y a plus ou moins un ou plusieurs jeux qui pourraient être liés directement avec le suspense, j'aurais tendance à répondre qu'en fait, tous les jeux de rôle
sont potentiellement
en fonction du scénario, en fonction du meneur, en fonction des joueurs. Mmh. Ils sont potentiellement aptes à pouvoir recevoir du suspense. Même si on fait un Toons RPG, rien n'empêche qu'effectivement la fameuse bombe qui est sous la table puisse pas être une bombe de peinture qui explose à la gueule des Toons. Mmh. Voilà. Le public qui est suspense. Au fond de la salle, qui a vu la bombe, non seulement, oui, effectivement, il connaît la bombe, oui, il sait qu'il y a un risque, peut-être ou pas, que la bombe explose, mais en plus, ce public, il est stupide puisqu'il reste à côté de la bombe.
Donc pour toi, selon toi, le suspense, c'est un espèce de sujet transversal qui traverse tous les univers de jeu, donc il n'y a pas un univers qui soit plus propice au suspense que les
autres. Il y a peut-être effectivement des univers qui, suivant ce qu'insinue le maître de jeu et suivant comment réagissent les joueurs, peuvent être un peu plus propices au jeu, mais un même scénar classé avec un coup de tampon suspense TM par son auteur peut très bien être complètement détourné par un maître de jeu ou par un groupe de joueurs autour de la table. Combien de fois c'est arrivé à n'importe quel maître de jeu de vouloir présenter un scénario dit sérieux et que les joueurs partent complètement en couille. On peut appliquer exactement la même chose pour le suspense. Pour moi, le suspense est une des cordes sur lesquelles on peut tirer pour rendre le scénario intéressant, en tant que maître de jeu, je parle, effectivement.
Alors, Bartam, justement, qu'est-ce que tu fais de cette idée de Pika que, finalement, le suspense dans le jeu de rôle, c'est difficile à mettre en place à cause de...
En fait, c'est un peu ce que je disais, à savoir que c'est difficile à mettre en place parce que ça fait quelque chose qui vient, en fait, des relations humaines qui sont échangées entre le maître de jeu et les joueurs. Donc, le suspense, il est rarement seul. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à définir le suspense. Et c'est pour ça que la question primordiale de Pika est très importante. Qu'est-ce que c'est que le suspense ? Le suspense, il n'est jamais tout seul. C'est une ambiance, c'est un système. Quand on parle de Hitchcock, on va regarder effectivement le suspense, mais comment c'est tourné ? Quels sont les plans ? Quel plan on va mettre ? Si on va mettre du noir et blanc, de la couleur, quels sont les sons qu'on va entendre ? Et ça, c'est une ambiance, en fait.
D'accord.
Et cette ambiance, c'est au meneur et au joueur de la faire vivre.
D'accord. Valentin, alors est-ce qu'il y a des univers prompts à nous faire ressentir du suspense ? Et qu'est-ce que le suspense ? Est-ce que
alors,
c'est possible ?
Moi, je vais rebondir effectivement sur ce qu'a dit Bartab. Je pense que le suspense, il est aussi très lié à une situation. Et ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est qu'on est autant spectateur qu'acteur de la situation, en fait.
Tout à fait.
On la subit autant qu'on la fabrique. Pour moi, c'est le concept un peu du démineur. Par exemple, le démineur, est-ce qu'il va couper le fil rouge ou le fil bleu ? Est-ce qu'il va réussir à désamorcer cette fichue bombe ? Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le suspense, à la différence d'un Harry Potter qui capte pas trop effectivement les émanations de Voldemort un peu partout, qui va le réaliser que vraiment très très tard, le suspense, il peut aussi venir du choix et des actions des joueurs.
D'accord.
Donc c'est quelque chose qui peut être provoqué par les joueurs. Et que d'ailleurs, effectivement, des scénars qui sont pas pour le coup estampillés suspense. Vont le devenir. Et à l'inverse, des scénars qui sont censés l'être vont partir dans une direction complètement, complètement opposée.
D'accord.
Donc je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez difficile vraiment à cerner, ou en tout cas d'en délimiter des contours très nets, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est étroitement lié à ce qui se passe autour de la table entre le meneur et les joueurs, et c'est d'ailleurs ce qui fait, je trouve, tout l'intérêt du jeu de rôle.
Alors, l'une des réponses que l'on donne en général à cette problématique du suspense, problématique dans le jeu de rôle, parce que les personnages et les joueurs sont une seule et même entité, donc les gens qui regardent, les spectateurs et les personnages qui vont subir cette action retardée, la bombe sous la table, sont les mêmes personnes, c'est de dire, oui, mais attention, en jeu, il y a une règle, c'est de bien faire la distinction entre son personnage et le joueur. Est-ce que c'est pas parce que le personnage va vivre quelque chose et que le joueur sait que le personnage va vivre quelque chose que le personnage doit être joué par le joueur comme si il le savait ? Parce que le personnage n'est pas forcément au courant de ce que le joueur sait pour lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Pika, l'ironie dramatique, en fait. C'est ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Le fait que toi, en tant que joueur, tu saches que ton personnage va subir quelque chose de fâcheux, mais que tu continues pour autant de jouer ton personnage comme si tu ne le savais pas. Et là, est-ce que le suspense, c'est pas, on peut pas retrouver le suspense, quoi.
Bah en fait, le suspense, c'est que tu te poses une question, en fait. Tu peux te poser deux questions. tu peux te poser la question, c'est qu'est-ce qui va se passer, quoi. T'es joueur, tu dis, mais tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et effectivement, des fois, le joueur, il sait très bien ce qui va se passer, mais pas son perso. Voilà, par exemple, je vais un petit peu empiéter dans le domaine de Johan, mais grosso modo, on démarre un scénar de sombre. Tu dis aux joueurs, bon, vous êtes 4 dans une bagnole avec 5 litres d'essence et vous partez faire du camping dans la forêt. Les joueurs, ils savent très bien comment ça va tourner.
Hein. Bon. Oui, surtout si tu joues avec Johan en face de toi, hein, ça c'est oui, d'accord.
Voilà, mais en fait, tu sais, par contre, la question que tu vas te poser, c'est comment ça va se passer, quoi.
Est-ce que là, tu penses que les joueurs ressentent du suspense quand on part avec la voiture et qu'il y a Johan Scipion qui est en face de nous?
Bah ouais, déjà, bon, je leur conseille de changer de table, hein, il vaut mieux, pour la sécurité.
C'est le genre de maître de jeu qui cherche des victimes et pas des joueurs.
Mais grosso modo, t'es là dans ta bagnole, tu pars vers la forêt, tes persos, en fait, ils sont censés faire un pur week-end entre potes et tout, mais les joueurs, ils savent qu'en fait, ça va très mal se finir. Sauf qu'ils savent pas encore comment ça va finir, sur quoi ils vont tomber. C'est ça le principal, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de chocolat, en fait.
Et ça, pour toi, c'est du suspense.
Bah ouais, c'est ça, quoi. Tu penses ? L'idée, c'est que tu as la petite goutte de sueur parce que tu dis, attends, comment ça va arriver ? Est-ce que ça va arriver vite ? Est-ce que ça va arriver lentement ? Donc, est-ce que je vais m'en sortir ? Mystère.
Netza, tu voulais intervenir ? Parce que je te vois lever ton micro.
Non, j'avais le micro en l'air comme ça, mais...
Bartab.
En fait, toujours pour rebondir sur ce que vient de dire Pika, c'est le deuxième effet qui se coule. Au fur et à mesure de la discussion, moi j'y ai pas pensé quand je suis arrivé autour de cette table, mais on est en train de s'apercevoir qu'il y a deux effets suspense. Il y a le suspense pour le personnage et le suspense pour les joueurs.
Tout à fait. Je suis en train de me faire la même réflexion.
Et bon, j'y ai pas plus réfléchi comme ça, donc ça, les mots me sortent directement de la tête.
C'est le but du podcast.
C'est un peu le but du podcast, ouais, j'ai bien compris. Il est clair que pour moi, en tant que meneur, si je peux donner l'impression à mes joueurs, je dis bien aux joueurs, pas aux personnages, qui sont dans un état où il y a une espèce d'anxiété, une espèce de, effectivement, des questions qui se posent, du suspense, quel que soit le jeu et pour tout n'importe quoi.
Donc là, le suspense des joueurs, on est d'accord.
Le suspense des joueurs, c'est vrai que c'est, j'allais dire, jouissif. Pas forcément, mais...
Le but d'un maître de jeu reste, dans certains jeux, de faire ressentir des émotions à ses joueurs.
Donc. Voilà, au moins je crée quelque chose que les joueurs apprécient ou pas, voilà. Mais je crée quelque chose, je crée une osmose, et on peut, autour de toutes ces émotions, parce qu'il n'y a pas que celle-ci, autour de toutes les émotions que distribue une partie de jeu de rôle, créer quelque chose. Si après on part du suspense pur et dur, à savoir ce scénario-là, c'est du suspense parce que les personnages se trouvent dans une ambiance type suspense TM avec le coup de tampon à la Hitchcock, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que n'importe quel maître de jeu peut dévoyer ça.
D'accord.
Voire même n'importe quelle bande de joueurs qui prennent pas le bon chemin malgré qu'il y avait le panneau lumineux qui clignote en disant le scénario par ici qui vont le par là. Voilà, c'est alors effectivement encore une fois on retombe sur la question de base du début du podcast de Pika, c'est le suspense. Est-ce qu'on le définit pour les personnages, pour les joueurs? Y a-t-il réellement en fait une définition pour le suspense?
Je me souviens d'un petit cas personnel où on faisait du Saint Seiya RPG, on adorait ça, les Chevaliers Zodiac, et moi je prenais un malin plaisir en tant que maître de jeu à la fin de chaque scénar de faire terminer le scénar sur un coup de théâtre ou un événement, vous savez, comme à la fin des mangas où ils finissent toujours par un truc. Là il y a du suspense pour les deux, je pense, à la fois pour les joueurs.
Je suis même pas sûr que ce soit du suspense, à la rigueur c'est un cliffhanger.
Ouais, d'accord, ok.
Voilà.
C'est
encore une fois, on est sur une problématique d'accord. De définition. Le suspense, qu'est-ce que c'est? On a la chance d'avoir cette année encore Johan à côté de nous. Il me semble, mais tu pourras probablement me contredire si je me trompe, que Sombre, c'est d'abord un jeu d'horreur avant d'être un jeu de suspense.
Johan.
Alors, oui, c'est un jeu d'horreur, bien sûr. Mais en fait, c'est pas incompatible.
Non, mais voilà, idée, elle est celle-ci, c'est qu'il n'y a pas un scénario qui est forcément suspense. Il n'y a pas un scénario qui soit forcément horreur. Encore que ce serait difficile de le faire dévier de cette définition. Malgré tout, c'est l'ensemble des choses et la réaction du public qui peuvent être les joueurs vis-à-vis du meneur qui serait le narrateur qui va entraîner que oui ou non les personnages ou les joueurs aient une sensation de suspense. Je me pose des questions.
Johan, horreur et suspense ne sont pas incompatibles.
Non, en fait, moi, je suis hyper d'accord avec ce qu'a dit Pika.
D'accord.
Mais ça tombe bien parce qu'on bosse ensemble et,
ouais.
et qu'on mène le même jeu. Et en fait, moi, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que je mène un jeu d'horreur dont le principe, c'est qu'en fait, quand on est en partie, on joue un film d'horreur. Donc en fait, moi, je m'inscris dans une démarche qui est la catastrophe annoncée.
D'accord.
Tout le monde sait que ça va finir mal et très mal. Ouais. Tu vois,
on a loué le DVD, on savait ce qu'il y avait.
Bah, franchement, 100% des rôlistes ont vu un, voire plusieurs films d'horreur. Ouais. Donc on sait bien que ça part plutôt pas trop mal et que ça va finir plutôt très très mal.
Ouais.
Donc tu vois, la progression, elle est claire. Et moi, par exemple, tu vois, dans la partie que j'ai menée hier soir, qui est un scénario zombie, je commence par briefer les joueurs en leur disant, voilà, bah, hier c'était la 13e fois que je menais ce scénario. Donc j'avais derrière moi 12 parties de playtest, avec une moyenne de 4-5 joueurs par partie. Donc grosso merdo, ça fait 50-55 personnages.
Ouais.
3 survivants.
Ça, là, ça met l'ambiance, quoi. Voilà.
Et j'annonce cash. Je le dis aux gens, quoi. Donc du coup, ils savent que ils ont la probabilité de survie, elle est proche de zéro. D'accord. À ce niveau-là, intégrer une notion de suspense, ça devient compliqué, parce qu'en fait, la fin est déjà écrite, quasi.
Parfois, justement, ça fait partie du suspense. Tu vois, je veux dire, la bombe va exploser quand
elle est sous la terre. Oui, tout à fait. Mais en fait, alors dans l'exemple d'Hitchcock, on voit le décompte sur la bombe, donc on se dit, ça va péter, mais on n'est pas sûr. Peut-être que les personnages vont trouver un moyen de désamorcer la bombe. Il y a une tension. On attend l'événement dramatique, mais va-t-il vraiment se produire ?
D'accord.
Okay.
C'est ça qui
nous, on sait qu'il va se produire. C'est-à-dire que dans le scénar zombie, on sait que les zombies vont débarquer. Tu vois, le scénar que j'ai mené hier, il commence in medias res. C'est-à-dire que dès la première scène, ça cogne dur.
D'accord.
Donc, du coup, là, ça atomise à ce niveau-là toute notion de suspense. Par contre, j'ai d'autres scénarios dans lesquels ça commence un petit peu plus doucement. Et du coup, là, le suspense, c'est les joueurs savent que ça va empirer grave. Leurs personnages ne sont pas au courant. Parce qu'ils partent en camping tranquillement en forêt.
Comme disait Pika.
Mais, et là, par contre, on retrouve une notion de suspense avec une différenciation entre le point de vue du personnage et le point de vue du joueur, qui est proche de la différence que fait Hitchcock entre le point de vue du personnage cinématographique et le point de vue du spectateur. Tout simplement parce que le joueur, il sait que ça va se barrer en couille, violemment, et il attend.
Position d'attente.
Et toi, en tant que meneur, tu veux une exposition un petit peu plus un peu calme, donc tu pars pas in medias res. Tu pars avec des scènes de vie quotidienne. Le départ en camping, etc. Tu laisses le temps aux joueurs de poser leur perso, de rentrer dans leur roleplay, et il ne se passe pas grand-chose. Voire, ça commence, tu balances un petit événement, bon, parfois généralement surnaturel, parce que le surnaturel, c'est utile à l'horreur, et t'en envoies un de temps en temps, sur un joueur, pas forcément sur toute l'équipe, et du coup ça dérape petit à petit. Et le suspense, c'est quand est-ce que les gros méchants prédateurs, ils vont nous tomber sur la gueule. On sait on est venu là pour ça. On sait qu'ils vont arriver et on sait qu'ils vont nous mettre grave dans la tronche, mais quand est-ce que ça va arriver?
Et puis bon, quand on voit
et quand tu vois que ça marche, tu fais durer un peu. Ça m'est arrivé dans un scénar semi-improvisé il y a 2 semaines. Là, du coup, on improvise. J'ai improvisé le scénar à mesure qu'on le jouait, sur un setting créé par les joueurs, en fait. Et du coup, comme j'ai vu, et je suis parti comme ça. Je suis pas parti de Mediares parce que le scénar n'était pas suffisamment préparé pour que je me le permette. Donc, je suis parti sur des scènes très calmes au départ, avec des petits événements surnaturels. Et quand j'ai vu que les joueurs accrochaient, j'ai fait durer un petit peu cette phase.
Parce que tu sentais qu'eux, ils jouissaient de cette phase où...
Je sentais que la tension montait.
D'accord.
Un petit peu. Et pour que cette montée en tension soit efficace, j'ai retardé... Alors là, les joueurs avaient choisi comme antagoniste des ghouls.
D'accord.
Donc j'ai retardé autant que possible l'arrivée des ghouls. pour que je puisse distiller des petits éléments de peur au début du truc.
Alors, est-ce que dans les ombres d'Estérène, par exemple, il y a des techniques ? Donc cela, un peu, Johan, tu as commencé à te lancer dans la partie qu'on voulait aborder sur les techniques pour mettre le suspense. Quelles sont les techniques que les ombres d'Estérène conseillent, mettent en place ?
Alors, effectivement, je pense qu'on est sur des choses qui fonctionnent pas forcément de façon mécanique, mais il y a des articulations, des leviers sur lesquels les meneurs effectivement peuvent avoir une action pour déclencher toutes sortes de réactions à la fois chez les personnages et chez les joueurs. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la mesure où le personnage et le joueur sont quand même à peu près la même personne, des fois c'est intéressant par l'analyse du meneur.
Je suis pas du tout d'accord.
Ouais.
Le personnage et le joueur, c'est pas du tout la même personne.
Non, mais c'est.
L'objectif, c'est de rapprocher les deux.
Ce que je veux dire, c'est que t'as un individu en face de toi. Effectivement, il se dédouble d'une certaine manière, à la fois par son personnage, mais il y a quand même une part de lui-même qui s'exprime à travers tout ça. Ce qui est intéressant, des fois, d'observer, c'est comment le meneur, subtilement, va plutôt faire levier sur le joueur pour déclencher quelque chose chez le personnage ou inversement. Ça dépend, on peut voir de toutes sortes de choses. Dans les ombres d'Estérène, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme on est dans un jeu d'ambiance où vraiment le roleplay est au centre du dispositif et que les actions et les résolutions se déroulent surtout dans la façon de les interpréter autour de la table, plus que par des résolutions de jet de dés vraiment très très importantes et développées. Ce qui est intéressant, c'est de donner effectivement un certain nombre de pistes et de clés aux meneurs pour effectivement amener les ambiances à aboutir à des situations de tension.
Des conseils au maître de jeu. Vraiment.
Voilà. Alors bon, ça se fait dans les publications sous la forme de petits encarts où on suggère le moment venu, en fonction des choix et des décisions des personnages, éventuellement de tirer une ou deux cartouches dans telle ou telle direction pour éventuellement insister sur des points de tension plus ou moins dramatiques. Voilà. Après. C'est quelque chose de très subtil. Diffus. Je trouve qu'effectivement, quand ça se met en place autour d'une table, c'est vraiment un régal. C'est un pur délice parce que ce qui se passe à ce moment-là, effectivement, témoigne d'une implication, je pense, assez particulière des joueurs. Je trouve que c'est assez difficile dans des jeux où on va être vraiment en mode un peu freestyle pour délirer, voilà, de poser une vraie ambiance à suspense parce que ça a tendance à s'évaporer assez vite. Donc voilà, faut y faire attention.
Ce que tu veux dire, c'est je résume un petit peu, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une espèce de communication entre le joueur et son personnage. Si on veut faire ressentir, si on veut que le personnage ait peur, il faut un petit peu faire peur au joueur en quelque sorte. Et qu'il y a une espèce de vase communicant comme ça.
Je pense qu'on peut jouer sur les deux tableaux, ouais.
Ouais. Donc pour instaurer le suspense pour un personnage, par exemple dans une fiction, il faut essayer de l'instaurer aussi au niveau du joueur en dehors, dans la réalité.
Oui, dans une mettre l'ambiance par de la musique. Transfert. Moi, quand je regarde un film et que le personnage a peur à l'écran, éventuellement, si le film est bien fait, j'ai peur avec le personnage. Alors que moi, je suis assis dans la salle et qu'il ne va rien m'arriver du tout. Donc à un moment donné, il faut que le joueur qui lui est à sa table pour de vrai opère ce transfert avec son personnage qui lui est dans la situation pourrie et qu'effectivement l'intensité de ce qu'il ressent effectivement augmente son interprétation de la situation.
Pika ou Netza, tu voulais dire quelque chose ?
Non, bah, j'écoute depuis tout à l'heure.
je te vois le micro en l'air à chaque fois, je me dis que je veux parler.
Ouais, non, je te ferai signe si je veux parler. Mais en fait, depuis tout à l'heure, on parle de... Je viens de parler de rapprocher le joueur et le personnage. Pour moi, le suspense, c'est aussi le moment où tout le monde regarde le dé. Par exemple, pour un jet de dé crucial, ça va vraiment être le moment où tout le monde va être les yeux rivés sur le dé pour voir ce qui va se passer. Ça, c'est vraiment dans l'instant, quoi.
Là, par contre, je suis complètement d'accord.
Donc, le jet de dé, ça, c'est du suspense de joueur, en fait. C'est le joueur qui...
Oui, c'est le joueur, mais c'est...
On se dit, ah là là, qu'est-ce qui va se passer pour ce personnage, sachant qu'en fonction du résultat du dé, soit il va chuter, soit...
Exactement, et du coup, ça rejoint aussi ce que disait Bartab, c'est que le suspense, c'est pas relatif, c'est pas...
Ouais. Est-ce que c'est une bonne technique le dé pour mettre le suspense?
Ouais, mais tu vois, je suis effectivement, on a tous connu des énormes moments de tension et de pression assez ultimes au moment où le dé se lance et que le résultat est assez crucial pour la suite de la partie. Je trouve que c'est quand même aussi quelque chose qui ramène à une certaine forme de réalité du jeu et quelque part je trouve que ça a tout à fait sa place. Il y a aussi la possibilité d'avoir cette tension là dans la décision qui est pas faite systématiquement par le jet de dé ou la sanction du résultat par le dé, qui va être juste le choix de faire ou pas faire quelque chose dans le jeu, je veux dire in-game vraiment, en interprétant son personnage, on peut choisir d'ouvrir ou de pas ouvrir la porte. Ouais. Et que t'as pas besoin forcément de jeter un dé pour savoir si tu l'ouvres ou pas cette porte. C'est en toi, tu le joues ou pas. Et là, il y a une vraie tension, il y a un vrai suspense aussi.
Je parle de dés, hein, j'utilise assez peu les dés en fait. Donc,
en réussissant à combiner quelque chose qui fonctionne avec les deux, c'est-à-dire que le dé et l'interprétation vraiment s'organisent de manière équilibrée, je trouve qu'on arrive à quelque chose qui vraiment fonctionne très très bien.
Johan,
moi je trouve qu'on confond tout là.
D'accord.
Faut être clair.
Remets l'ordre.
Je suis d'accord. Moi, le suspense, c'est l'attente. Et moi, je suis d'accord avec NASA, c'est-à-dire que l'intérêt du dé, c'est que ça crée une attente.
D'accord, ok.
T'attends le résultat et t'anticipes la catastrophe.
On parle bien de la suspense qui n'est pas créée par la fiction, mais qui est créée par la réalité, au sens où on stresse pas par quelque chose qui est généré par la fiction que les joueurs génèrent. On est là en attente d'un résultat dans la réalité.
C'est imbriqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fiction qui amène le jet de dé à sombre. Mmh. Puisque moi, je te parle de sombre, on utilise le système qu'en situation de stress extrême. D'accord. Grosso merdo, c'est pendant qu'on se bat. Mmh. Et quand on se bat, dans un jeu d'horreur, ben on risque sa vie. C'est clair, hein, la moyenne à sombre, c'est qu'on meurt en 3 tours.
D'accord, ok. Hein,
donc c'est radical. Les
zombies, ils meurent en 3 tours aussi.
Et ils sont beaucoup plus coriaces.
Ah merde.
Les PNJ, ils sont très très coriaces. Les antagonistes.
Ah merde.
Ils sont increvables, comme dans les films d'horreur.
D'accord.
Et le truc, c'est que je fais en sorte que les joueurs soient bien au courant de ces réalités. C'est-à-dire.
Du l'aspect meurtrier du système.
Ouais, bien sûr.
De façon à ce que lorsque le jet de dé est fait, le stress monte.
Il m'arrive souvent de mener en double feature, c'est-à-dire d'enchaîner deux scénarios, un petit court. En introduction, un entracte et ensuite un long.
D'accord.
De manière à ce que lorsqu'on attaque le scénario long, les joueurs qui ont déjà joué le petit scénar d'avant soient bien au courant de la létalité du système.
D'accord, ok.
Donc ça produit de la tension et ça produit du suspense lorsque tu lances les dés parce que tu es dans l'attente, tu es vraiment dans l'attente du résultat du dé parce que ça peut tout changer.
D'accord.
Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité avoir des dés. Dans mon jeu.
Bartam.
Là encore, il y a du vrai, il y a du pour, il y a du contre. Je suis tout à fait d'accord pour dire que l'attente de la valeur du résultat d'un jet de dés, c'est effectivement, là encore, j'y avais pas pensé avant de parler, du suspense. Mm. Mais d'un autre côté. Si je devais réfléchir à 2 secondes de plus là, à la question, je me dirais aussi c'est quelque chose qui rassure le joueur. Donc ça, quelque part...
Comment ça, le dé rassure le joueur?
C'est-à-dire que le jet de dé, en fait, ça veut dire que le joueur, il ne va pas faire l'action de réfléchir, l'action de faire le roleplay. Finalement, ce n'est pas moi qui décide. Et là, on se rapproche de quelque chose qui est purement du jeu et pas du rôle.
Dans le suspense, le personnage, tel qu'on l'a décrivait avec Hitchcock, ne décide pas non plus que la bombe soit sous la table, tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait, mais le fait pour le joueur, qui peut être lui baigné dans l'ambiance de suspense, savoir exactement que oui, voilà, c'est critique, on jette les dés, on fait quelque chose où le hasard a une grande part, mais on fait quelque chose qui est purement de la responsabilité du joueur. Prendre la décision de jeter les dés, de ne pas le faire, d'essayer de faire du roleplay ou pas, c'est quelque chose qui va faire une brisure en fait. Cette brisure pour le joueur peut-être peut être synonyme de casser le suspense.
D'accord.
Je ne tiens pas du tout à relancer un débat avec ou sans dé, roleplay ou dé.
Est-ce que le dé brise l'ambiance en fait et brise du coup le suspense?
Non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas du tout relancer ce débat. Je suis une personne qui moi utilise énormément les dés.
D'accord.
Y compris Y compris pour des actions qui peuvent être
alors,
complètement
stupides. Ce que tu veux dire, c'est que le lancer du dé, non pas des contre-immersifs, mais désamorce en fait la tension que le suspense
il
mettait
peut
en place.
Avoir, il peut avoir cette option. Moi, il m'arrive des fois de demander à mes joueurs de lancer un dé pour ouvrir une porte. En règle générale, pour eux, indirectement, ça leur fait une petite clochette dans la tête, surtout quand ils me connaissent bien. C'est s'ils me demandent de faire un jet de dé pour ouvrir une porte, alors que d'habitude, on ne le fait pas. C'est que là, doit y avoir quelque chose.
D'accord.
Bah, tu crées bien du suspense avec ton dé.
Alors, Pika.
On crée du suspense, mais on désame dans l'attente. C'est-à-dire, c'est une action qui est physique, qui est réelle, qui peut désamorcer l'ambiance.
Vous voyez, Valentin qui réagissait. Valentin ?
Non, oui.
Trouvais ça artificiel.
Non, on a un système aussi de résolution, en particulier des combats dans Esteren, qui est assez létal et expéditif de la même manière, qui met tout de suite les joueurs dans l'ambiance, dans le fait qu'il va vraiment falloir peser ses choix et ses décisions, surtout quand il va falloir effectivement passer aux armes. Après, à partir du moment où le postulat, voilà, tout le monde l'a intégré, l'a assimilé et l'a digéré. C'est vrai que le suspense, il est latent. Il est latent dans la mesure où il va se révéler plus ou moins selon les décisions, les situations et le déroulement de la partie. Mais en fait, il est relativement permanent. En tout cas, dans l'ambiance d'Esteren, c'est quelque chose qui est vraiment sous-jacent et que les personnages intègrent même en eux dans une sorte de fragilité qui les amène parfois à reconsidérer certaines de leurs convictions ou de leurs choix profonds. C'est quelque chose, effectivement, qui est tout le temps suspendu et on ne sait pas trop à quel moment ça va s'abattre sur eux et quelles vont être les conséquences pour eux.
Pika, non ?
Alors, ouais, si, ça fait un petit moment que je veux parler, mais je voulais un peu écouter tout le monde d'abord.
Ouais.
Pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, Valentin, ce qui est important dans le suspense, en fait, ça vaut pas le coup si, en fait, si tu fais monter la température dans la marmite, de toute façon, il y a un moment, il faut que ça pète, quoi. Si ça pète pas, ou s'il n'y a pas une énorme probabilité que ça pète, ça n'a pas intérêt. Et en fait, là, il y a eu un petit débat un petit peu passionné sur est-ce que les dés, c'est utile pour ça et tout. Je pense en fait que pour moi, tous les artifices sont bons à prendre, hein, que ce soit au niveau du roleplay, au niveau du système, au niveau du méta-jeu. Pour moi, le méta-jeu, c'est important pour ça. Tous les artifices sont bons à prendre si on veut créer du suspense. Et en fait, le suspense, principalement, il va résider dans la perte de contrôle. C'est-à-dire qu'il faut que la tablée sente que le contrôle de la partie peut lui échapper.
Ouais.
Parce qu'en fait, il faut savoir que le jeu de rôle,
En quel sens précise bien ta pensée.
Ben voilà, je t'explique.
Ouais.
En fait, il y a beaucoup de tablées de jeux de rôle. Qu'en fait, quand tu fais du jeu de rôle pulp, quand tu fais du jeu de rôle d'action, il y a beaucoup de tablées de jeux de rôle où en fait les choses sont hyper contrôlées. C'est-à-dire que le joueur, il sait que le MJ, quand même, il va sauver son personnage, sauf s'il fait vraiment une énorme connerie.
D'accord.
Le MJ, s'il joue avec des joueurs avec qui il est en confiance, il sait que ces joueurs, ils vont pas foirer le scénario et faire n'importe quoi.
D'accord.
Que ça va être, grosso modo, qu'il va réussir à les amener de son point A à son point B et que ça va à peu près rouler correctement.
D'accord.
Et en fait, si tu veux jouer du suspense, justement, il faut retirer toutes les sécurités.
D'accord.
Bah, il faut en garder quelques-unes. Moi, par exemple, je suis un MJ souvent qui retire pas mal de sécurité et j'ai des scénarios qui sont finis en une heure parce que les persos ont pris la mauvaise décision et sont tous morts. Quoi. Grosso modo, parce que pour moi, un bon suspense, c'est aussi même le MJ flippe. Il flippe parce qu'il sait que sa partie, elle tient à un fil. Alors, je sens que Johan bouillonne parce que je contrôle vachement. Johan, il contrôle vachement.
Pouce levé pour Johan là. Johan, vas-y, prends juste rapidement.
Non, moi je suis hyper d'accord là-dessus parce que moi, alors j'ai du mal à me projeter du côté joueur parce que je suis meneur.
Tu es meneur. Ouais.
Mais pendant les parties, du suspense, il y en a pour moi.
D'accord. Ouais.
C'est-à-dire que moi je pose. Comme je te le disais, cette nuit j'ai mené pour la 13e fois un scénar.
Ouais.
Et en fait, j'ai vu plein de trucs dans cette partie que je n'avais pas vu avant. Et en fait, alors que la situation de départ elle est super carrée, que je la pose maintenant depuis 6 ou 7 séances exactement de la même manière, que j'ai développé mes routines sur ce scénar, donc je le mène de manière assez égale. Et en fait, ça part total en whiz. C'est lui, Pika pourra témoigner parce qu'il a assisté à la fin de la partie. C'est parti total en whiz. Moi, j'accompagne, je gère, j'anime, et je laisse les joueurs faire le jeu. Et en fait, je me rends compte que bon, il y a certains éléments dans le scénario qui font que quand les joueurs font certains trucs, j'anticipe la fin. Je sais que ça va mal se passer. Et en fait, j'aime pas ce moment-là. J'aime pas ce moment-là parce que je décroche un peu.
D'accord. Hein.
Je préfère que l'incertitude
demeure.
Dure le plus longtemps possible.
Toi, tu as cette réflexion de te dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire.
Parce que moi, ouais, parce que tu vois, ça me maintient dans la partie.
Ouais, en tant qu'improvisateur, je connais ça par cœur.
Je suis plus dans le jeu, je suis plus présent, je suis plus réactif. Ouais. J'ai les neurones qui fonctionnent plus vite et c'est plus fun. Mmh.
Ouais. Plus d'adrénaline au final.
Exactement. Mmh. Donc moi, je me doute que ça va finir mal parce que ça fait quand même 13 séances avec 3 survivants. Mmh. Donc je me doute que ça va finir très mal. Mmh. Mais tant que l'incertitude. Tant que l'incertitude demeure, tant que je suis dans l'attente de la fin sans savoir exactement si la catastrophe, si la bombe va péter, pour moi, ça reste super fun, ça reste super vivant. Et au bout de 13 séances, je ne suis pas lassé de mener le scénar parce que tant que j'ai ce truc-là. Si après, dans le cours du scénario, généralement, ça arrive entre les deux tiers et les trois quarts de la partie, si les joueurs font certaines actions, moi je peux pas raconter de manière plus précise parce que je crierai le scénar. S'ils font certaines actions qui du coup annulent toutes leurs chances de survie, où je sais que ça tombe brutalement à zéro. bon, je reste dans la partie si tu veux. C'est-à-dire que j'assume mon rôle de meneur jusqu'à la fin, etc. Et je leur laisse pas paraître que c'est mort. Mais je le sais et du coup pour moi ça devient nettement moins intéressant.
Là, je me pose aussi une question, c'est-à-dire jusqu'où le stress aussi s'applique au meneur de jeu, c'est-à-dire que lui, puisqu'il connaît en fait les enjeux de son Pika, non, tu voulais, excuse-moi, je t'ai interrompu.
Finis donc ta phrase et si. Je pense que j'essaierai de te répondre.
Jusqu'où en fait le suspense ne s'adresse qu'au meneur de jeu, parce que lui, il sait les dangers qui guettent les personnages, et les personnages, eux, n'en savent rien. En fait, quand on regarde la situation qu'a le meneur de jeu, c'est lui qui ressent le suspense hitchcockien. C'est lui qui sait les dangers, alors que les personnages, eux, ne les connaissent pas. Donc le suspense, en fait, ne s'appliquerait qu'au meneur, Pika.
Je pense que c'est important pour que la partie soit cool, que tout le monde, en fait, produise du suspense. C'est-à-dire, moi, je fais des actions.
Mais pour ça, il faut que le joueur ait un vrai pouvoir créateur sur le scénario. Qu'il y ait des trucs que le joueur ait prévu, connaisse, de manière à ce qu'il voit les personnages, en fait.
Le simple fait que le joueur ait un personnage, c'est un pouvoir créateur immense, quoi. Parce qu'un personnage, ça peut faire beaucoup de choses, et surtout des bêtises.
Johan.
En fait, le souci, le fond du truc, c'est pas tellement qu'il faut que le personnage ait un pouvoir créateur, c'est qu'en fait, il faut que le meneur soit, enfin, je pense, suffisamment disponible et ouvert pour être réactif aux initiatives des joueurs.
D'accord.
C'est ça le truc. C'est qu'en fait, dans le scénar zombie que j'ai joué hier, je pose la situation de départ et j'attends de voir.
D'accord.
La situation, elle est super carrée. donc, je sais que ça ne peut pas partir dans 1000 directions, mais ça peut quand même partir dans suffisamment de directions pour que je puisse être vachement surpris.
D'accord.
Mais par contre, il faut décider de se laisser surprendre. Et ça devient alors
ça c'est une vraie gymnastique, pas d'esprit, mais une vraie
ça demande une vraie disponibilité,
profession de foi, quoi.
Non, ça demande une certaine disponibilité intellectuelle.
Ouais.
Et la contrainte, c'est que quand tu enchaînes les playtests, au bout de la deuxième partie, tu as vu pas mal de trucs. Et en fait, tu as une vraie tendance à vouloir reproduire les scènes qui se sont super bien passées dans les parties précédentes. Je pense qu'on est tous meneurs de convention aussi. Hein. Donc, on a tous mené à nos nombreuses reprises les mêmes scénars.
Ouais.
Donc, du coup, tu as une tendance à vouloir... Tu as une super scène dans la partie il y a deux jours, il y a deux mois, etc. Tu voudrais qu'elle se reproduise à chaque scénar. Et en fait, ça calcifie ta masterisation.
D'accord.
Et du coup, les joueurs ont moins d'espace créatif parce que inconsciemment, consciemment ou inconsciemment,
tu les guides,
tu les
aimes bien.
Voilà. Et du coup, moi, ça me plaît moins. Parce que moi, ce que j'aime, c'est être surpris par les joueurs. J'aime qu'ils fassent des trucs que j'ai jamais vus.
Bartav,
je souscris totalement à ce que vient de dire Johan. Pour avoir moi aussi fait jouer le même scénario plusieurs années, voire même plusieurs fois dans différentes conventions. Mm-hmm. Effectivement, quand on a toujours le même scénario, on sait que il va se produire des étapes et à la dernière convention lambda, il s'est passé une belle scène et oui, j'aimerais bien qu'effectivement ça se passe aussi bien. Mm. Ou à l'inverse, je voudrais absolument éviter. Donc ça influence sur le mastering.
Mais bien sûr.
D'un autre côté, en ce qui me concerne, encore une fois, j'aime bien parler de moi, je pense que tout le monde a remarqué, je me laisse toujours l'opportunité, chaque fois que j'en ai l'occasion.
On parle des techniques que vous employez, c'est normal que tu parles des techniques.
De faire des parties où le scénario, alors pas écrit, c'est normal, ça je n'écris jamais mes scénarios, mais en fait, où j'ai un point de départ et grosso modo un point d'arrivée. Et en fait, le scénario, je le construis au fur et à mesure que les joueurs disent ce qu'ils ont envie de faire.
D'accord.
Et là, pour le coup, effectivement, si je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, eh ben, le suspense, c'est moi qui l'ai.
Mmh. Oui. Neta.
Non, mais je suis carrément d'accord avec ce que viennent de dire Bartav et Johan. C'est-à-dire que moi, j'aime bien préparer des scénars en fait, où j'ai une bonne situation initiale. Je lance les joueurs sur une trame linéaire. Et plus on avance, plus ça devient ouvert. Plus je laisse de possibilités aux joueurs sans essayer de les brider ou quoi que ce soit.
Donc, ouais, c'est un bac à sable. La meilleure technique, en fait, j'ai l'impression, si on vous écoute pour l'instant, pour créer le suspense, c'est le scénario bac à sable, où en fait, on lâche les joueurs dans un espèce d'univers
de laboratoire. Tu maîtrises ton environnement, tu maîtrises tes personnages, mais tu laisses les joueurs interagir comme ils veulent avec eux, et tu regardes ce qui se passe. Quoi.
Tu sais qu'il y a une bombe à cet endroit-là, mais voilà, tu vois tourner autour, putain, ça peut péter à tout moment.
Et puis ça peut ne pas péter, ça peut se passer complètement différemment, et péter autrement, et ça rendra la partie d'autant plus géniale.
Valentin.
Alors ouais, moi je me régale d'entendre tout ce que j'entends. Je pense qu'on a des meneurs vraiment de qualité à la table. C'est vraiment vos joueurs ont beaucoup de chance. Effectivement, on est absolument dans la fabrique de bac à sable totale, en essayant. Voilà, je parle vraiment du point de vue de l'éditeur, ce qui est quand même toujours assez compliqué parce que le jeu, nous on le fabrique, mais quelque part on c'est le but du jeu, c'est vraiment que les meneurs se l'approprient.
Tout à fait.
Et si nous on va mettre des mèches, des amorces, des pistes, etc., on sait très bien que derrière chacun va faire sa tambouille, sa petite cuisine, et que finalement, dans tous les scénarios qui vont être publiés, qu'est-ce qui va être retenu? Ça se trouve, des PNJ qu'on a élaborés vont devenir quelque chose de totalement différent de ce qu'on imaginait.
Tout à fait. Ouais.
Voilà, sous la plume d'un meneur, et c'est très bien. Mmh. Et c'est très bien, et on encourage. Et c'est vrai que fabriquer ces bacs à sable pour des meneurs aussi impliqués que vous, vraiment, ça fait voir le métier de l'édition de jeux de rôle quand même, d'un point de vue tout à fait séduisant.
Il dormira sur ses deux oreilles, l'éditeur, ce soir. Pika, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, alors en fait, j'ai un concept qui me trotte en tête, mais que vous développez.
Je te vois avec une sonnette là.
Ouais, justement. En fait, je voulais vous illustrer par exemple. Alors, bouchez-vous les oreilles.
Attention. Rien.
En fait, moi j'utilise un petit gadget depuis quelques temps. J'aime bien les gadgets, hein, ouais. Voilà, dans la vie de tous les jours et tout. C'est bien. C'est une sonnette, vous savez, les sonnettes d'hôtellerie? Petite sonnette, je fais une petite sonnerie mini. Hein. Voilà. En fait, j'ai la place au milieu de la table. Et donc, j'explique à mes joueurs que si à un moment, en tant que joueur, t'appuies sur la sonnette, t'as droit à un round tout seul. T'es tout seul à agir. En fait, grosso modo, c'est tu prends tout le monde de surprise et tu fais un truc de fou. Quoi. Généralement, c'est pour faire un truc de malade. Quoi. Donc, par exemple. Le groupe de PJ en train de négocier avec une bande de mafieux, le débat commence à être tendu, clac, t'appuies sur la sonnette, ça va, tu sors ton gun et c'est toi qui tires le premier. C'est ça, quoi. Et j'explique aussi aux joueurs que moi aussi, en tant que MJ, j'ai droit à la sonnette. Tout le monde a le droit de se ruer dessus.
D'accord. Putain, c'est une énorme technique, ça.
Et en fait,
en plus, le son est bien strident, bien stressant.
Ce qui est pas mal, c'est que les joueurs se l'approprient. Et je vais prendre l'exemple, en fait, le scénar House of the Rising Dead là, de Johan, ouais, que j'ai eu la chance de playtester là, il y a un mois. Il y a un moment, bon, je vais éviter de spoiler, mais grosso modo, il y a un moment, ils arrivent à tuer un personnage qui détient une arme. Et en fait, l'arme tombe par terre. Il y a deux PJ à côté et tout. Et là, je vois les joueurs qui se regardent tout de suite.
Ah oui.
Et
Tac. Ils essayent de se
ruer. Voilà, ils se sont rués comme ça. Ils se sont rués en fait sur la sonnette. Et du coup, c'est le premier. Ça a fait un bruit d'enfer. On était dans le local associatif. Je peux dire que ça a réveillé les morts, quoi. Et c'était trop bon, quoi. Du coup, il n'y a pas eu de jet de dés, tu vois. C'était un autre artifice. C'était la sonnette. C'est le mec qui avait la main où tu peux prendre un totem de Jungle Spin, n'importe quoi. Mmh. Bon, c'est gadget. Ça peut pas plaire à tout le monde. Mais je pense que ça illustre le principe que là, du coup, tu as tout le monde autour de la table qui flippe. Parce qu'ils savent que n'importe quel joueur, qu'il soit PJ ou MJ, bah, il peut faire partir le truc en quenouille et que toute cette mécanique de scénar bien huilée et tout, bah, ça peut partir dans des directions totalement imprévues et que ça peut tourner à la Reservoir Dogs en un instant. Quoi.
Je pense que la sonnette est mieux que le Jungle Speed, si je peux me permettre, parce qu'il y a quand même le son qui arrête en fait automatiquement toutes les descriptions, qui fait « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?»
Ah ouais, en plus c'est strident, hein, ça vibre.
Dans les salles de classe, là, comme ça, comme celle-ci, et ça vibre.
Vite, bien. Dépose le brevet, t'as des thunes à te faire.
Attends, c'est super concept, hein. c'est excellent, quoi. Franchement, bravo. Sur ce magnifique conseil, Pika, nous allons dire au revoir à nos éditeurs, il est déjà temps de nous quitter. La convention se termine, hein, ouais. Tranquillement.
Ouais, ça se termine. Donc, c'est fini maintenant, normalement.
Et voilà,
pense.
Avec voilà, ce podcast.
Ça se termine tout de suite.
Eh bien, en tout cas, voilà. Merci de nous avoir accueillis pour cette éclipse. Bah,
c'est moi, hein, bravo, c'est Rennes. Moi qui remercie à tous ceux qui sont là déjà.
Encore, encore une belle convention à votre actif. Bah, merci d'avoir organisé cette table ronde et nous en avoir fait profiter.
Et bah, on en refait une l'année prochaine alors.
Allez, au revoir. À bientôt tout le monde. Vous dites même pas au revoir à mes auditeurs.
Au revoir.
Bah, tu ne me laisses même pas le temps, en fait, c'est ça. T'as déjà coupé la machine?
Non, même pas. Non, c'est bon, ils t'entendent.
Ah, c'est bon. Donc, alors, je suis né il y a 3 ans.
Au revoir tout le monde et bon jeu.
À bientôt tout le monde.
Râlez-moi un jeu et plus.
La vieille Maxime.